Tout de suite, le journal de France Culture. Présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'hydroxychloroquine n'a aucun effet décisif contre le coronavirus. Deux études médicales mettent en cause l'efficacité du médicament défendu par le professeur Raoult. Les explications de Tara Schlegel dans un instant. L'Assemblée vote l'extension des cours criminels à 30 départements. Ces juridictions sans jury populaire sont contestées par les syndicats de magistrats. C'est ce que nous expliquera Florence Turm. La crise du coronavirus qui suscite une tension diplomatique entre la France et l'Espagne. Madrid impose une quarantaine aux voyageurs français. Paris a décidé de faire de même pour les Espagnols. L'analyse d'Élise Delève dans cette édition. Le constat est cinglant, l'hydroxychloroquine n'est pas efficace contre la Covid-19. Voilà ce qu'estiment deux études médicales publiées aujourd'hui. L'une est française, l'autre est chinoise. Et selon ces deux études, l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet significatif sur les patients, qu'ils soient ou non gravement atteints par le coronavirus. Rappelons que le professeur Raoult défend ce traitement associé à un antibiotique, l'azithromycine. Alors Tara Schlegel, que contiennent précisément ces deux études ?
En Chine, 150 patients ont été recrutés dans 16 centres. Atteints de troubles légers, la moitié a été traitée à des fortes doses, jusqu'à 1200 mg d'hydroxychloroquine au tout début. L'autre groupe n'a pas pris ce traitement. Or, la probabilité d'élimination du virus en 28 jours est quasiment identique dans les deux groupes. 81% pour le groupe témoin, 84% pour ceux soignés à l'hydroxychloroquine. La différence est dérisoire, mais 30% des malades ayant pris l'antipaludéen ont souffert d'effets secondaires. En France, 4 hôpitaux ont recruté 181 patients Covid en mars. Pour donner un seul indicateur, le taux de survie sans détresse respiratoire aiguë, il a été de 69% dans le groupe traité avec de l'hydroxychloroquine et de 74% sans ce médicament. Conclusion, le bénéfice du traitement n'est pas démontré. Seules de petites études ont semblé valider la molécule jusque-là, mais on a vite dénoncé leur biais, notamment dans l'essai du professeur Raoult qui n'a impliqué que 20 malades, qui savaient qu'ils prenaient la pilule miracle, effet placebo garanti donc. 6 ont d'ailleurs abandonné en cours de route, l'essai a été très critiqué. Les défenseurs de la chloroquine misaient sur Discovery, la grande étude sérieuse lancée par la France, mais les deux tiers des patients n'ont pas encore été recrutés et les résultats, fiables, attendus mi-mai, sont reportés. Enfin, les États-Unis viennent d'autoriser un nouvel essai sur l'antipaludéen, mais il débute à peine.
Tara Schlegel, merci. Toujours au chapitre médical, un enfant de 9 ans contaminé par le coronavirus est mort la semaine dernière à l'hôpital de la Timone à Marseille. Il souffrait d'autres pathologies, dont une forme proche de la maladie de Kawasaki. C'est le premier décès de ce type en France, alors que deux autres décès similaires avaient été signalés à New York et à Londres. Les précisions de Solène Lehen.
Évidemment, un décès comme celui-là a de quoi alarmer les parents, mais les médecins insistent, ce cas mortel est rarissime, ce sera peut-être même le seul en France, en Europe et aux États-Unis. Il se compte d'ailleurs pour l'instant sur les doigts d'une main. Dans l'immense majorité des cas, ces formes graves chez les enfants se soignent et guérissent. Il s'agit en fait d'une hyperinflammation qui touche le cœur et qui apparaîtrait 3 à 4 semaines après une infection Covid, car le lien avec le virus ne fait presque aucun doute. Les tests sont la plupart du temps positifs. L'enfant souffre d'abord de fièvre, de douleurs abdominales, puis son état dégénère brusquement, avec des défaillances cardiaques et circulatoires qui peuvent nécessiter une réanimation et qui rappellent une maladie infantile, la maladie dite de Kawasaki, même si ce n'est pas tout à fait comparable. D'abord parce que Kawasaki touche de très jeunes enfants de moins de 5 ans, alors que les cas rapportés ici concernent une moyenne d'âge plus proche des 8 ans. Ensuite parce que les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes, avec des atteintes cardiaques ici beaucoup plus marquées. Avec moins de 150 cas en France depuis le 1er mars, ce syndrome reste rare, mais le lien avec le Covid semble d'autant plus évident que plus de la moitié des cas sont recensés en Île-de-France et que leur nombre semble aujourd'hui en train de régresser. Enfin, les médecins constatent qu'une majorité de ces enfants sont originaires d'Afrique ou des Antilles, ce qui pourrait évoquer une prédisposition génétique.
Voilà, rectification, il ne s'agissait pas de Solène Lehen, mais de Véronique Julia. Emmanuel Macron et Olivier Véran ont effectué ce matin une visite surprise à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et des infirmières ont interpellé le président et le ministre de la Santé avec parfois des mots très forts. Une visite présidentielle que nous raconte Sarah Tucherer.
Lors de cette visite, uniquement suivie par l'agence France Presse, Emmanuel Macron a été à plusieurs reprises vivement interpellé sur le manque de moyens de l'hôpital public ou sur la question des masques. Une infirmière des urgences en colère lui a notamment lancé « On veut de l'argent, c'est pas 300 euros qu'il faut pour garder le personnel, c'est plus au service réanimation, les deux tiers des effectifs partent ». Plus tard, un médecin a réclamé un choc salarial. Face à ses soignants, le chef de l'État a promis d'être au rendez-vous, mais aussi fait un mea culpa. La réforme du système de santé engagée plus tôt dans son quinquennat aurait été bonne 10 ans plus tôt. Son ampleur était insuffisante, elle ne portait pas assez de sens. On a sans doute fait une erreur dans la stratégie annoncée, a estimé Emmanuel Macron. Dans un moment d'introspection, il a aussi ajouté « J'étais convaincu qu'on était en train de changer les choses, c'est très cruel pour moi-même ».
Sarah Tucherer, merci. Emmanuel Macron, qui avait pris le 12 mars dernier l'une des décisions les plus discutables de son quinquennat, il avait maintenu le premier tour des élections municipales en invoquant l'avis de son conseil scientifique. Le 15 mars, 21 millions d'électeurs étaient allés voter alors que l'épidémie se propageait dans toute la France. Et bien, selon une étude publiée dans le journal Le Monde, le maintien du premier tour des municipales n'a pas contribué à accélérer la diffusion du virus. Ce sont des statisticiens et des épidémiologistes qui ont conduit cette enquête. La crise sanitaire a pour conséquence d'engorger les tribunaux. Alors pour soulager les juridictions, l'Assemblée a voté la nuit dernière l'extension d'une expérimentation controversée, la mise en place de cours criminelles sans jury populaire. Ces cours sont composées de 5 magistrats professionnels. Elles jugent des crimes passibles de 15 à 20 ans de prison. L'expérimentation va être étendue à 30 départements au lieu de 9 aujourd'hui. Florence Thurm, les syndicats de magistrats contestent cette extension.
Le remplacement des jurés populaires par des magistrats professionnels avait déjà suscité de vives critiques au sein du syndicat de la magistrature. Aujourd'hui, sa présidente, Katia Dubreuil, redoute une généralisation déguisée.
La carte blanche votée par les parlementaires à la chancellerie sur cette expérimentation, c'est un problème parce que les éléments n'ont pas été apportés par le gouvernement sur la nécessité d'étendre cette expérimentation. Or, une fois qu'on aura mis en place des cours criminels dans beaucoup d'endroits, il est fort à craindre qu'on ne puisse pas revenir en arrière et finalement décider que ce sera à nouveau des cours d'assises qui vont juger les crimes concernés.
Inquiétude partagée par l'USM, syndicat majoritaire, pourtant favorable au principe de l'évaluation. Cette extension va concerner le tiers des cours d'assises françaises. Elle conduira par ailleurs à puiser dans des effectifs de magistrats jugés déjà insuffisants, avec une difficulté supplémentaire, précise Jackie Coulon, secrétaire général de l'USM.
La situation est encore aggravée par le fait que dans l'expérimentation initiale de l'année dernière, il était prévu d'avoir recours largement à des magistrats honoraires, donc ce sont des magistrats retraités. Or, compte tenu de la crise sanitaire actuelle, il n'est pas envisageable de demander à des magistrats qui ont 68-69 ans d'aller siéger dans des salles où les conditions sanitaires ne vont pas forcément être optimales et donc avec des difficultés aussi sur ce point-là.
Et de son côté, le Conseil national des barreaux se montre également hostile à l'extension du dispositif.
Florence Thurm, merci. En tout cas, le confinement a eu un effet positif sur l'une des principales formes de délinquance en France. Le trafic de drogue a diminué entre le 16 mars et le 11 mai. L'attestation de sortie n'est pas étrangère à ce bon résultat, Antoine Marette.
30 à 40% de trafic en moins pendant le confinement, c'est ce qu'estiment les services chargés de la lutte contre les drogues. Les trafiquants ont dans un premier temps été désorganisés par les nouvelles contraintes, mais selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ils se sont rapidement adaptés.
L'ingéniosité de nos adversaires sur ces sujets n'a pas diminué. De nouvelles pratiques sont apparues et pourraient s'ancrer durablement, je pense à la cannabiculture. Je pense à l'ubérisation des trafics, je pense à ces renforcements de l'utilisation de tous les réseaux sociaux, je pense à l'arrivée par voie maritime aussi de volumes importants sur certains types de drogues, autant de sujets sur lesquels nos adversaires s'adaptent et sur lesquels nous devons évidemment nous adapter.
Autre conséquence du confinement, la rupture de l'approvisionnement qui a provoqué une augmentation des prix de 30 à 60% pour le cannabis. Le marché des stupéfiants s'est fortement contracté pendant ces 2 mois. Les rivalités entre les trafiquants se sont exacerbées, réveillant certaines guerres de territoire.
Antoine Marette. Bruno Le Maire avait rendez-vous aujourd'hui avec les représentants de la filière automobile. Le ministre de l'économie pose ses conditions aux constructeurs qui espèrent des aides de l'État. Il veut des voitures vertes, électriques si possible, ou qui réduisent leurs émissions de CO2. Bruno Le Maire veut également que les constructeurs français relocalisent une partie de leur production. Un pari difficile à gagner pour l'expert Bernard Julien. Il est maître de conférences en économie à l'université de Bordeaux.
Cette stratégie-là, elle était déjà évoquée bien avant le Covid. Par conséquent, c'est assez facile aujourd'hui à Renault d'habiller une décision qui était déjà prise en un engagement à demeurer en France et à s'y développer. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que rêverait probablement notre ministre de l'économie, que Renault va relocaliser en France des modèles dont il était acté qu'ils allaient être fabriqués dehors. Autrement dit, la Clio 5 qui aujourd'hui est faite en Turquie et en Slovénie, elle va, selon toute vraisemblance, dans sa version thermique et dans sa version hybride, demeurer là-bas. La question pourra se poser à terme lorsque, par exemple, il s'agira de renouveler Zoé. Et là, la question se posera de savoir si, pour ces petits véhicules, Renault choisira un site français ou non. Si l'État a, à ce moment-là, des moyens de pression encore assez forts, il est probable que Renault choisira soit Douai, soit de rester à Flins. Pour l'instant, rien n'est acté.
Bernard Julien répondait à Annabelle Grelier. Prestalis a été placé en redressement judiciaire. Décision aujourd'hui du tribunal de commerce de Paris. Prestalis est le numéro 1 de la distribution de la presse papier en France. La crise du coronavirus suscite parfois des tensions en Europe alors que tous les pays de l'UE ont fermé leurs frontières intérieures. Nouvel exemple cette semaine, une tension inédite entre deux voisins, la France et l'Espagne. Madrid a décidé de mettre en quarantaine tous les voyageurs venant de l'étranger, y compris du territoire français. Paris a riposté en prenant la même décision pour les Espagnols. Élise Delève.
La France voulait un déconfinement européen en harmonie avec tous les pays. Madrid en a décidé autrement. Hormis les travailleurs frontaliers, les routiers et le personnel médical, l'Espagne a décidé que tous les voyageurs venant de l'étranger devaient se soumettre à une quatorzaine une fois arrivés sur le territoire espagnol. Agacée, la France a répondu en substance « si vous vous barricadez, nous aussi ». Selon un principe de réciprocité, l'Élysée a donc décidé à son tour d'imposer une quarantaine aux voyageurs venant de l'autre côté des Pyrénées. Le décret d'application est actuellement entre les mains du ministère de l'Intérieur. Madrid estime quant à elle que la réciprocité est tout à fait normale. Depuis le début de la crise, l'Élysée plaide pour une approche européenne sur les frontières, même si des accords entre pays voisins sont inévitables. Cette semaine, la Commission européenne a recommandé un retour graduel et coordonné à la liberté de mouvement, sans préciser de calendrier. Un rendez-vous est prévu mi-juin.
Élise Delève, merci. Au Brésil, la crise sanitaire tourne à la crise politique. Le ministre de la Santé, Nelson Teich, vient de démissionner. Il conteste la façon dont Jair Bolsonaro lutte contre le coronavirus. Le président brésilien, qui est un adversaire farouche du confinement, la Covid-19 a déjà tué près de 14 000 personnes au Brésil. Un peu partout dans le monde, le déconfinement progresse. En Australie, par exemple, les bars et les restaurants sont autorisés à rouvrir dans l'État des Nouvelles-Galles du Sud. À Sydney, la capitale de l'État, les habitants peuvent désormais réserver pour ce week-end. Grégory Pless s'est rendu dans un pub de la métropole australienne.
Manger au restaurant, ça n'était plus possible depuis le 22 mars en Australie. Les affaires reprennent enfin au Warren View, un pub connu dans tout Sydney pour son immense terrasse arborée et sa belle sélection de bières locales. La gérante Sarah est ravie du retour des clients.
Ça fait tellement du bien, même après seulement une heure d'ouverture, de s'imprégner de l'énergie de ces gens qui sont contents d'être dehors et aussi, je pense, de participer à la renaissance de la vie du quartier.
Une renaissance, oui, mais qui reste encore très limitée. Les pubs, les cafés et les restaurants ne peuvent recevoir que 10 clients à la fois. C'est la raison pour laquelle, au restaurant israélien Schenken, Dean préfère pour l'instant continuer à ne faire que de la vente à emporter.
Je pense que d'ici à 3 ou 4 semaines, les restrictions seront de nouveau assouplies. Quand on pourra recevoir 25, 30, 40 personnes, alors là, ça vaudra le coup.
Mais tous ne peuvent pas se permettre d'attendre encore un mois de plus. Déjà plus de 440 000 emplois ont été détruits dans le secteur secteur de l'hôtellerie en Australie et le retour à la normale s'il est désormais lancé semble encore loin.
Le reportage de Grégory Pless, notre correspondant à Sydney. Retour en France avec le temps demain, ensoleillé au nord et toujours instable au sud. Le ciel sera maussade et parfois orageux, des Pyrénées aux Alpes en passant par l'Auvergne. Les températures minimales oscilleront entre 2 et 16 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 12 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.